Le sol a tremblé ce matin en Charente-Maritime et en Gironde, 4,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situe à Montendre, à 70 km au nord de Bordeaux.
On se demande ce qui se passe, la maison bouge, elle est comme sur un coussin d'air.
Je pensais à une explosion à côté. Moi, je me suis mis à trembler, les murs ont tremblé, les verres ont teinté.
Moi, ça fait 47 ans que je suis à Montendre et c'est la première fois.
Voilà, ça c'était le 20 mars dernier, la terre a tremblé, mais les répliques continuent, en Charente-Maritime en particulier, une zone de France plutôt calme d'ailleurs normalement, Axel. Hein.
Et oui Mathieu, la région de Bordeaux n'avait pas connu cela depuis 1759, et le séisme de l'Entre-deux-Mers, les répliques du séisme du 20 mars, mesurées à 4,9, presque 5 sur l'échelle de Richter, ont continué ce week-end samedi, avec un séisme de 3,7. L'événement du 20 mars totalise près de 2700 signalements sur le site France Séisme, et pour en parler, nous sommes avec Pascal Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sismologue à l'Institut de physique du Globe de Paris. Alors presque 5 sur l'échelle de Richter pour une région calme. Est-ce que vous, personnellement, ça vous a surpris ces événements de Montendre et puis cette réplique à Jonzac ce week-end?
Alors, bon, là, effectivement, c'est une région calme, hein, de sismicité faible. Mais magnitude 5, en fait, c'est une magnitude locale qui est un peu la mesure que l'on fait sur les sismomètres depuis des décennies. Mmh. Et en fait, qui ne correspond plus réellement à la réalité des magnitudes que l'on voit de par le monde, qui est une magnitude d'énergie. Donc, cette magnitude estime l'amplitude du séisme par le maximum de du mouvement du sol à une distance donnée. On corrige la distance, etc. Et en fait, on perd de l'information. Et une réévaluation de cette magnitude avec les normes actuelles, c'est plutôt une magnitude autour de 3,74. Donc c'est moins surprenant.
C'est une surestimation ce 4,9. Pourquoi c'est le chiffre
qu'on a vu? C'est pas une surestimation, c'est une autre mesure de magnitude, ce qu'on appelle magnitude locale. Donc il faut savoir bien se dépatouiller, parce qu'entre magnitude 5 et magnitude 4, normalement, il y a 10 fois plus de séismes, ou il y a 30 fois moins d'énergie.
Alors, parmi les signalements qu'on a recueillis sur Internet, il y a des ressentis à Bordeaux, ça c'est normal. Il y en a même jusqu'à Clermont-Ferrand. Pour un séisme comme ça, c'est normal d'aller si loin pour des ressentis?
Alors, s'il y a un témoin de Clermont-Ferrand, effectivement, si la personne est en haut d'un grand immeuble et l'immeuble est construit sur un sol mou, on a une double amplification, donc il y a une petite chance, si on est très zen, de ressentir quelque chose.
Oui, donc il faut être dans des conditions particulières.
Oui.
Ouais. Une région calme comme ça, avec un séisme qui se produit, là, on voit tous les 250 ans, un gros, c'est intéressant pour vous en tant que sismologue pour étudier la région?
Le séisme de 1759 était sans doute plus gros, puisqu'il avait une intensité 7, voire un peu plus, et alors que celui-ci a une intensité 4. Ouais. Donc en termes de magnitude, c'est difficile à dire, mais sans doute des magnitudes autour de 6 pour celui de 1759, peut-être un peu moins, 5,5, et alors que là, on a probablement 30 ou 100 fois moins d'énergie.
Ce que je veux dire, c'est, est-ce que des séismes de petite magnitude comme ça dans des régions calmes, c'est intéressant et c'est utile pour étudier pour vous la sismologie?
C'est extrêmement important parce que ça montre l'activité des failles de la région. En fait, on a relativement bien identifié le système de failles qui est concerné. C'est le même que celui qui traverse la Vendée et la Bretagne dans sa partie sud, qui fait notamment la sismicité de l'île de Ré et d'Oléron.
Pour l'événement dont on parlait en 1759, est-ce qu'on connaît les dégâts qu'il avait produits sur la région?
On le connaît bien, on a des bonnes archives, les grands bâtiments, les églises, les châteaux ont été abîmés, les murs un peu fissurés. On a eu quelques effondrements de bâtiments relativement peu consolidés, et puis ça a été fortement ressenti à 200 km à la ronde.
On peut imaginer qu'un événement comme ça aujourd'hui aurait des dégâts moindres?
Je pense qu'il aurait des dégâts importants.
Oui.
Oui,
c'est,
oui.
Je parlais de manière de construire ou de protéger les bâtiments, ça ne change pas.
Alors ça, c'est difficile à dire. Le bâtiment de l'époque, les grands bâtiments étaient très bien construits, donc sauf ceux qui étaient vieux, évidemment, pouvaient s'endommager plus facilement. Beaucoup de cheminées tombaient à l'époque, et je pense que ça recommencerait de nouveau maintenant.
Ouais, encore un mot sur les failles, Pascal Bernard, qu'on comprenne bien justement où est située la France par rapport à ça, et cette région ouest en particulier.
Alors cette France, elle est située un peu en bordure de plaque, un peu loin. Il y a une frontière, une ancienne frontière de plaque qui est encore un petit peu active au niveau des Pyrénées, cette chaîne de montagnes qui continue de bouger avec ses failles sismiques, avec des séismes destructeurs historiques. Et on est un petit peu au nord de cette zone, on est à 100-200 km au nord. Et donc on ressent un peu les contraintes de cette pression, en gros, de la plaque ibérique sur la plaque eurasienne. Mm-hmm. Ces contraintes, elles s'atténuent pas avec la distance, mais les failles locales sont un peu cimentées depuis fort longtemps, depuis des centaines de millions d'années, et donc elles résistent très bien, mais de temps en temps elles lâchent un petit peu à magnitude 4, à magnitude 5, et peut-être dans le futur des magnitudes plus.
Alors, Pascal Bernard, pour des événements de faible amplitude comme ceux de ces dernières semaines, est-ce qu'il est quand même important, quand on ressent quelque chose, de faire la démarche, de faire un signalement sur les sites internet faits pour recueillir?
Oui, c'est très important, très utile, parce que ça permet de recaler les choses, d'une part, par rapport aux archives historiques, pour lesquelles on n'avait pas, évidemment, de sismomètre de mesure. Donc, on peut recaler les effets ressentis de l'époque, 1759, ou d'autres dates, avec ce que les gens ressentent maintenant, la distance de perception, par exemple. Ça, c'est une chose. Et ensuite, on peut recaler les magnitudes 3, 4 relativement les unes aux autres, beaucoup plus rapidement, puisqu'en fait, on a une réponse, les témoins répondent en quelques minutes, alors que, bon, le CEA donne une première mesure au FI en quelques minutes, mais parfois à réviser parce qu'on n'a pas toutes les informations sismologiques, parfois avec la magnitude locale et donc pas la magnitude de manque qui est la vraie magnitude d'énergie. Donc l'information du public est extrêmement utile.
Alors c'est ça aussi l'effet Internet, ça vous sert à faire une grille plus fine du territoire avec des terrains plus
tout à fait, plus à risque. Tout à fait, il y a deux sites sur lesquels on peut témoigner, c'est le site du BCSF, donc Séisme France, France Séisme plutôt, et puis le Séisme et le site de l'EMSC, le CSEM, qui aussi récolte les témoignages.
Merci beaucoup Pascal Bernard pour toutes ces précisions avec cette actualité charentaise en l'occurrence. Et puis je signale cet ouvrage que vous avez signé qui s'appelle « Pourquoi la Terre tremble » et qui nous fait voyager vraiment dans le monde entier et qui est paru aux éditions Belin. Merci beaucoup à vous Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Hayabusa 2 qui enchaîne les exploits. Ce week-end, la sonde japonaise a réussi à former un cratère artificiel sur l'astéroïde Ryugu. Elle a d'abord largué une petite boîte. Une fois la sonde à l'abri, la boîte a explosé, envoyant un projectile de 2 kilos à plus de 7000 km en direction de l'astéroïde. Une suite d'opérations très complexes et inédites dans le spatial, dont le but était donc de libérer de la matière du sous-sol afin de l'analyser ensuite. Le retour sur place est prévu dans 2 semaines avec certainement des photos du cratère. La découverte d'une baleine amphibie qui marchait et nageait à 4 pattes, les ancêtres des baleines actuelles il y a 50 millions d'années, étaient des animaux terrestres qui sont retournés petit à petit à la vie aquatique. Une équipe de chercheurs belges décrit cette semaine dans la revue Cell un fossile transitoire découvert au Pérou. L'animal daté de 42 millions d'années avait donc 4 pattes ornées de sabots mais certainement palmées et une queue dont la structure proche de celle des castors indique un mode de nage déjà très efficace. Et puis pour terminer, des surprises dans les profondeurs du Titicaca. Des archéologues ont découvert dans ce lac entre le Pérou et la Bolivie des artefacts très bien conservés, datés entre 700 et 950 ans, soit plus de 500 ans avant la fondation de l'Empire Inca. Des vestiges qui sont certainement attribués au peuple Tiwanaku, brûleurs d'encens, ornements en coquillages, or, pierres précieuses, ainsi que ossements de lama. La récolte est importante. La présence de plusieurs ancres proches des sites de fouilles laisse penser aux chercheurs que ces objets ont été jetés dans l'eau depuis des bateaux en guise d'offrande.